Bienvenue chez CEO,
le podcast qui décrypte les codes du monde de l'entreprise
pour la jeunesse étudiante. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Pierre-Damien Fougou de CEO Podcast. Normalement, je devrais être avec Tom Brel, mais mon compagnon de CEO, mon compagnon de podcast. Mais aujourd'hui, et depuis quelques temps déjà, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire pour un voyage d'études, mais ça n'empêchera pas CEO de continuer, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, on a un invité spécial. On a un invité spécial parce que la thématique d'aujourd'hui est une thématique particulière, exceptionnelle. On parlera d'art oratoire, on parlera d'éloquence. Et l'invité, c'est Alexis Sarias. Alexis Sarias, bonjour.
Et bonjour à toi, Pierre-Damien.
Alors Alexis Sarias, j'ai dit que tu es un invité exceptionnel.
Quel honneur.
Et j'aimerais pour ça que tu te présentes, s'il te plaît, que tu te présentes ton rapport à l'art oratoire. Déjà, qui tu es? Pourquoi est-ce que tu es quelqu'un d'exceptionnel dans l'art oratoire? Pourquoi? Parce que c'est vrai. Et voilà, tout simplement. Donc, qui es-tu, Alexis Sarias?
Alors, comment ne pas prendre le bocal après nous avoir sorti, présenté de la sorte. Très rapidement, du coup, donc, je suis Alexis Sarias. Je suis actuellement coach en prise de parole en public, donc au sein de l'association Les Débatteurs, mais également en indépendant. Et donc, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne un certain nombre de personnes à travailler leur prise de parole en public, mais leur prise de parole de manière générale. Donc, ça peut être des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais également aussi des personnes de tout âge. Donc, pour l'exemple, j'interviens également avec des personnes en situation donc de proche aidant, donc qui accompagnent des personnes qui sont dans la maladie. Et l'objectif, c'est de s'amuser en prenant la parole et en même temps de développer ces compétences-là qui sont des compétences humaines essentielles, la communication avec l'autre, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde familial et personnel.
Ah, parfait. Alors, pour la petite anecdote ou pour l'histoire vraie, de toute façon, c'est toi et moi, on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés déjà?
Alors, on s'est rencontrés, en fait, j'avais un événement que je voulais organiser donc, au mois de décembre, qui s'appelait Les Utopies de demain.
Exactement, c'est là.
Voilà,
c'est...
très bel événement, c'est pas parce que je l'ai organisé, mais parce que c'était un bel événement agréable à vivre. Et j'avais besoin d'un maître de cérémonie pour cette soirée-là. Oui. Et j'avais envie d'innover, de changer un peu des personnes que j'avais dans mon entourage, qui suivait le débatteur depuis un petit moment. Et je t'avais vu sur, donc déjà, j'avais déjà eu ton nom. Qui était venu au niveau de mes oreilles par le biais d'autres personnes. Puis, tu es déjà connu dans le milieu.
Oh, je vais rougir. Hein. Si moi je rougis, appelle une ambulance. C'est pas parce que
il y a un truc qui va pas.
Exactement.
Et en même temps, j'avais suivi un peu ce que tu faisais sur Instagram et tout ça. Je me suis dit, il y a une belle énergie. J'aime bien le mélange art oratoire, parce que je savais que tu étais à la tribune Montesquieu. Donc je sais que tu as déjà fait des procès, des concours et tout ça. Et en même temps, je me disais, c'est intéressant d'avoir le côté stand-up. C'est parce que. C'est-à-dire que tu es déjà à l'aise avec un public, tu es déjà à l'aise dans une forme de lâcher prise, une autre manière de communiquer que strictement procès ou concours, où tu es concentré sur ton propos. Oui. Là, de stand-up, il y a quand même un échange avec le public où tu es au cœur de cet espace. Oui, et donc, je me suis dit, pour mettre l'ambiance, pour créer une vraie énergie, que ce soit pour les orateurs et pour le public, il me valait à quelqu'un qui a un profil comme ça atypique. Et je me suis dit que tu correspondais parfaitement à ce profil.
Oh ça fait plaisir de d'entendre ça. Déjà, je ne savais pas que c'était ce schéma de réflexion qui t'a poussé à me contacter. Et en plus, moi, franchement, j'étais très surpris parce que je sais que les débatteurs, en gros, quand j'avais connaissance des débatteurs, c'était surtout des débats improvisés que ton association avait l'habitude de faire. Et sur ce type d'événement, quand tu m'as contacté, je me suis dit, déjà, c'est quelque chose de particulier, de beaucoup plus particulier qu'avant. Donc j'aimerais déjà que tu essaies de nous dire précisément quel type d'événement l'association Les Débatteurs, quel type d'événement est-ce que vous faites, est-ce que vous lancez et comment est-ce que l'art oratoire ou du moins avec cette association vous réussissez à toucher ou à permettre aux étudiants ou aux personnes qui vous suivent d'améliorer leur éloquence.
Eh bien, c'est intéressant la question que tu poses parce que effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que j'ai parlé surtout de l'aspect formation parce que donc, c'est ce qu'on fait avec les débatteurs. On intervient également à la fac, l'Université de Bordeaux pour les ateliers de formation. Mais voilà, en fait, ce qui a été la genèse, en tout cas, des débatteurs, c'est également le concours qui s'appelait Les Débatteurs. On est très original dans le milieu. En gros, voilà, c'était exactement comme tu disais, c'était des débats improvisés. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein. On avait le premier, même, il avait réuni 14 orateurs différents, donc 7 joutes oratoires où les personnes avaient 10 minutes de préparation, connaissaient leur sujet 10 minutes avant de passer sur scène, avaient 10 minutes de préparation, donc soit pour le oui, soit pour le non. C'était des sujets assez simples. Hein. Au début, c'était vraiment doit-on manger ce que on préfère en premier ou en dernier. Donc on n'était vraiment pas dans le fond, on était vraiment dans le divertissement. Oui. Et en fait, progressivement, ces événements, ils sont un peu précisés, on les a fait évoluer. Donc déjà, on préparait davantage ces événements. On a mis moins d'orateurs pour qu'ils soient un peu plus formés, parce que l'exercice est assez périlleux. 10 minutes de préparation, en fait, on est à la croisée de l'impro, avec la rhétorique, mais en même temps, ça nécessite de maîtriser un certain nombre d'automatismes pour pas tomber tout court, oui. pas savoir quoi dire
ou dire des choses superflues.
Exactement, c'est le problème, ça peut vite être un problème. Et donc c'est aussi la chose qu'on a identifié, c'est que rapidement on était dans quelque chose de très langue de bois tout ce qu'on n'aimait pas en fait dans l'éloquence avec l'autre Alexis avec qui on a fondé les débatteurs.
Il y a deux Alexis,
la team des deux Alexis, Alexis au carré ou Alexis Alex, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Et justement, on voulait pas tomber dans ce truc où on met en avant une prise de parole qui est sans fond, qui est vide de sens et tout ça. Et donc, on s'est dit, il faut absolument que dans les événements qu'on propose, qu'il y ait une formation en amont pour des orateurs pour que ça soit un peu plus quali. Et même pour que ça devienne encore plus intéressant, pour ne plus qu'on tombe uniquement sur du divertissement, que l'on réfléchisse à chaque fois à des thématiques pour que ça devienne des événements, alors je sais pas comment on peut les appeler, on les appelle des événements sociétaux, des événements sociaux, pour qu'il y ait une thématique qui soit abordée, que l'on considère importante sociétalement, et qu'on le fasse sous le prisme du divertissement, tout en faisant réfléchir derrière les personnes qui viennent assister à notre événement, mais y compris les orateurs, parce que les premiers concernés, ça va être les orateurs, bien sûr, quand ils vont travailler le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait, on a traité le sex on the campus, on a fait la santé mentale des étudiants.
D'accord.
Et c'est dans ce cadre-là qu'est intervenu les utopies de demain. Mmh. Et les utopies de demain, on est allé un peu plus loin parce qu'on ne s'était pas restreint donc uniquement au débat. On s'est dit, quelle étape on peut franchir de plus pour amener encore plus de questionnements au sein de nos événements. Le débat, c'est chouette, mais l'éloquence, ça ne se résume pas qu'au débat.
C'est ça.
Et donc, même dans la vie de tous les jours, quand on est étudiant ou quoi que ce soit, certes, il va y avoir des débats quand on va devoir défendre quand on est en atelier de groupe, qu'on défend notre position parce qu'on pense qu'il faut faire trois parties plutôt que deux parties. Bref, mais en gros, l'idée, c'est que ça peut être ça, mais ça peut être aussi comment est-ce qu'on défend un projet quand on doit avoir des subventions, comment est-ce qu'on des subventions étudiantes avec la FSDE, comment est-ce qu'on on discute avec notre directeur de master, comment on le questionne, comment est-ce qu'on doit faire, si on doit mener des entretiens dans le cadre de nos études, parce que ça peut arriver de rencontrer des professionnels, ce genre de choses, mais comment est-ce qu'on va discuter avec ces professionnels, comment on attire l'attention. Donc c'est plein de formes d'éloquence différentes. Et donc nos événements maintenant s'inscrivent dans cette dynamique-là. On veut que ça soit le maximum hybride pour que la plupart des personnes qui viennent assister à nos événements puissent se reconnaître dans ce qu'on propose justement.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu que tu insistes, afin que tu sois dans... Bon, insister, c'est un gros mot. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que tu sois dans ce podcast, parce que, comme tu le sais, le podcast CEO, c'est un podcast qui est destiné à donner des codes aux étudiants, ainsi qu'aux étudiants, principalement à la jeunesse, en tout cas à la jeunesse étudiantine, ainsi qu'à la jeunesse professionnelle, qui donc va vers une activité, que ce soit de l'entrepreneuriat, une activité salariale, etc. Et là, de par ce que tu es en train de nous dire, ton association donne véritablement des codes aux étudiants ou aux personnes. Et l'intérêt ou la particularité que je suis en train de voir, et c'est même, je pense, aussi quelque chose qui se fait aujourd'hui, c'est que l'éloquence ou le premier rapport qu'on a généralement à l'éloquence, c'est un rapport de jeu. Parce que généralement, on commence par une joute verbale dans une ambiance folklorique d'une certaine manière, mais dans une ambiance de jeu, dans une ambiance où on va s'amuser. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que l'éloquence est un jeu, certes, mais un jeu sérieux également. Parce que, certes, c'est un jeu, parce que ça nous permet de développer beaucoup plus facilement certaines compétences, certaines capacités, mais tout l'aspect sérieux de l'éloquence est là, parce que après, quand on aura, et comme tu l'as dit, quand on aura à parler devant une classe, à parler devant un directeur de mémoire, un directeur de master, etc., il faut faire preuve d'éloquence, mais pas de l'éloquence superflue, pas uniquement d'éloquence pour s'amuser, mais de l'éloquence qui aura donc un but pertinent. Et juste, sans transition, parle-nous donc de toi, ton entrée dans l'éloquence, parce que comme je le disais, pour certaines personnes, c'est par le jeu. Toi, quelle était ta piste d'entrée dans l'éloquence ?
Par le jeu. Ah, oh. mais tout simplement parce qu'en fait, c'est clairement le cas. Hein. C'est quand j'ai commencé à avoir des prises de parole devant des groupes, c'était quand j'ai fait un IUT gestion des entreprises administration. Mm-hmm. Et en fait, c'était pas de l'éloquence à proprement parler, mais pendant nos ateliers, pendant nos cours, par exemple, on avait un cours de management et on devait réfléchir à des sketchs pour, mettre en exergue justement quel type de management, donc management directionnel, le management collaboratif, bref. Et donc il fallait les mettre en scène, et il y avait un peu de théâtre, il y avait quelque chose de très ludique, oui. Mais en même temps il fallait le dire avec une certaine prestance et une certaine énergie pour que le message puisse passer, et j'avais tellement kiffé, j'avais trop aimé ce moment, et je me suis dit waouh, en fait il y a quelque chose à développer là-dedans. Et après je suis arrivé à la fac en L3, en AES, administration économique et sociale, donc super intéressant sur le fond, sur tout l'apprentissage, la culture générale, tout ça. Par contre, la grande lacune, le grand manque qu'il y a eu, c'était l'art oratoire, l'expression. On a eu 2 exposés dans l'année, et honnêtement, dans les 2 exposés, quand j'ai écouté des gens qui passaient, j'étais en train de me dire, mais c'est une purge. Mais écoutez, alors j'ai tout le respect pour mes anciens camarades, mais c'était franchement affreux. Et puis même, en fait, moi, je me rendais compte que en ne pratiquant plus, je commençais à régénérer une forme de stress, à être beaucoup plus maladroit dans mes prises de parole. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage, quoi. Genre, tout ce que j'ai acquis, en fait, avant, je suis en train de le perdre parce qu'on ne pratique plus du tout.
C'est ça.
Et ça, c'était le groupe, comment dire, point d'entrée, et qui m'a fait dire, justement, quand je suis rentré en master ensuite, je me suis dit, dans tous les cas, cette année-là, c'est soit je fais du théâtre, soit je trouve un autre moyen de m'exprimer.
Okay.
Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était dans ma promo d'avant, Jordan Dionou, qui était le fondateur d'Atrium Montesquieu, qui m'a dit, Alexis, si ça te tente, je fais des cours d'éloquence. Je ne savais pas du tout ce que c'était l'éloquence à l'époque. Hein. J'ai juste des gens qui parlent. Donc je me suis dit, du moment que je parle devant une scène, ça me va, j'y vais, il n'y a pas de problème. Et donc, il m'a fait entrer. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, j'ai découvert totalement ce que c'était l'éloquence, que ça ne se résumait pas uniquement juste à parler, mais qu'il y avait plein de codes, qu'il y avait une manière de parler, il y avait une manière de capter l'attention, d'être éloquent, de défendre des sujets, de convaincre, de persuader. J'ai fait toutes ces distinctions et je me suis dit, waouh, en fait, c'est énorme comme discipline. Ça ne se résume pas juste à être devant un public et parler. Et moi, j'avais dans cette peut-être illusion, ces acteurs-là, quand ils parlent, qui sont extrêmement rapides, extrêmement éloquents, charismatiques, tac, tac, et tu sais, qui commencent à partir sur un rythme, machin, genre on a tous ces monologues-là d'avocats qui font « Oui, parce que madame, article 2, machin. » Bref.
Ouais.
Et c'était un peu biaisé, parce que c'est pas ça, en fait.
C'est pas ça uniquement, oui, c'est vrai.
Mais oui.
Parce que c'est vrai qu'on entre toujours dans l'éloquence par ce prisme-là, c'est par cette entrée que comprend l'éloquence. Moi, le premier, hein. Moi, je sais que l'éloquence... Comment est-ce que j'ai connu l'éloquence ? C'était au Togo, déjà. C'était au Togo. Et... Bon, ça dépend. L'éloquence joute, c'était au Togo, c'est vrai, mais il y a 2 phases. La première, c'est dans l'université privée dans laquelle j'étais au Togo, c'était à UKO, on était obligé de faire des exposés.
Okay.
Et dans les exposés, je voyais également, comme tu l'as dit, moi, je voyais des personnes qui passaient. J'avais aucun jugement à ce niveau-là, parce que j'étais d'ailleurs trop stressé déjà pour moi-même. Mais quand je passais, étant donné que je savais qu'il y a des gens qui m'écoutaient, moi, je me disais, étant donné qu'il y a des gens qui m'écoutent, autant que je leur offre un spectacle agréable. Même si on va parler de droit, certes, on parlera de droit, on parlera de fond, mais il faudrait également que la forme y soit. Et je me rappelle, tout a même commencé sur une blague, je pense, ou du moins une tournure de phrase assez maladroite. Parce que je pense que j'étais le seul garçon, le tout premier exposé, c'était le seul garçon. Et donc voilà, j'étais entouré de 3 filles. Et quand j'ai pris la parole, j'ai ouvert le bal en relevant ça, mais je ne sais plus exactement comment est-ce que je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, les gens ont rigolé. Et à partir de là, les gens se sont commencé par... J'ai vu les regards des gens, mais vraiment se porter sur tout ce que je disais. Et la raison pour laquelle moi ça m'a marqué, c'est parce que quand on écoutait d'autres personnes qui passaient avant moi, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient totalement perturbés, qui étaient sur leur téléphone, qui n'écoutaient pas, qui discutaient à côté. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à jouer. Il y a des gens qui ont juste envie d'être captés, d'être captivés lorsqu'on prend la parole. Et au fur et à mesure, ça a commencé, au fur et à mesure, ça a continué plutôt. Et dans mes exposés, j'ai essayé de mettre cet élément humoristique un tout petit peu, mais également d'avoir une diction, d'avoir une articulation, d'avoir des tournures de phrases, de mettre des images belles, d'avoir quelque chose qui fera de telle sorte que les personnes qui sont en face de moi se diront « Ah, j'ai envie d'écouter cette personne à qui est en train de parler. » Et je pense que c'est très important d'en parler. Et tu as relevé également ce manque-là, ce manque qu'il y a, et qu'on le voit aujourd'hui, hein, ce manque qu'il y a dans certains milieux qui normalement sont des milieux dans lesquels l'oralité est quelque chose d'important. Et je prendrai mon exemple, je prendrai la circonstance juridique. Actuellement, je suis chargé TD en droit, je donne des enseignements depuis le début de l'année. Et dans mes TD, ce que je donne aux étudiants, ce que je leur demande, c'est de faire des exposés sur l'actualité économique. Et ce sont des exposés très simples, ils sont 2 ou 3. Et parfois, mais je vois des étudiants mais qui prennent la parole et ça ne va pas du tout. Alors, le truc, c'est que quand je vois ça, je me dis, on ne peut pas leur en vouloir de toute façon parce qu'on n'a pas formé ces étudiants à ça. Et alors qu'on est en droit. Et donc, quand on a cette réflexion, on se dit, mais ce n'est pas normal. C'est le juriste, a priori, mais qu'il soit dans un bureau ou pas, le juriste est quand même soit un conseil, soit un avocat, soit un magistrat, mais c'est quelqu'un qui aura à parler, à défendre, à expliquer. Et ça, alors qu'il y a, donc, il y a des gens qui arrivent en Master 1, qui sont en Master 2 et qui n'ont connu l'oralité que depuis le bac avec le grand oral et encore. Donc tout ça, ça montre d'une certaine manière un certain manque en fait de l'insistance de l'éloquence, de l'insistance de l'oralité, donc de l'art oratoire, de cette manière de bien parler afin de pouvoir transmettre
un message clair et qui est défendre une position ou voilà, comme tu dis, exposer juste l'actualité pour en parler sans être démuni ou sans être rongé par les émotions qui nous submergent. Et c'est ça l'enjeu. Et effectivement, le manque, il est cruel. Mm-hmm. Et quand j'ai commencé, il n'y avait qu'une association réellement d'éloquence. Oui. L'ISIA était assez balbutiement, mm-hmm. En tout cas pour ce qui est de l'université de Bordeaux. Et en gros, effectivement, je me suis rendu compte de cette lacune, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut qu'on ouvre un maximum. Il faut qu'on ouvre un maximum l'éloquence, justement, qu'on la démocratise. Et donc, la tribune Montesquieu, c'est pour ça aussi, au début, on a ouvert un maximum de monde. La deuxième année, la première année, on était 4. La deuxième année, on était 25.
Ah oui.
Non, mais ça a été démentiel, la progression. Et après, on était obligé de refuser du monde parce mm-hmm. qu'il y avait trop de personnes. Et même après, dans cette perspective-là, c'est pour ça que nous, avec Alexis, donc l'autre Alexis, on a voulu encore pousser plus loin. On s'est dit, OK, c'est très bien, mais là, on est encore avec des universitaires. Il y avait beaucoup de jurys, beaucoup de sciences de science pistes, il y avait beaucoup de monde qui sont déjà, qui vont être amenés à prendre la parole, et c'est essentiel. Et encore une fois, c'est important, comme tu l'as dit, préciser qu'ils aient cette formation. Mais on a pensé en fait à toutes ces personnes qui, on va peut-être pas prendre la parole plus tard, mais ils seront forcément amenés à prendre la parole à un moment donné pour un entretien ou ce genre de choses, mais qui en plus de ça ont pas du tout ces outils-là.
C'est ça.
Et on s'est dit, mais c'est pas possible. En fait, faut absolument qu'on démocratise, qu'on ouvre encore plus pour justement des étudiants en médecine, des étudiants en médecine qui est capitale d'ailleurs, quand ils doivent annoncer aux patients justement, vous êtes atteint de telle maladie ou vous avez votre parent qui est peut-être en train de décéder ou ce genre de choses. Bref, il y a des manières de dire. Et ça, c'est pareil, c'est des gens qui, il faut qu'ils soient formés. Des personnes en orthophonie, on est au quotidien, des patients aussi, il faut savoir discuter, en sociologie, bref, dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut absolument vraiment ouvrir un maximum, parce que c'est tous les étudiants qui sont concernés, mais plus largement, du coup, tous les êtres humains qui sont concernés.
Et c'est là aussi, même si on remarque un certain manque, on va dire, de l'oralité, de l'importance de la prise de conscience de l'art oratoire, moi, je pense quand même que le constat, comme on le disait avant le podcast, aujourd'hui, je pense que le constat est assez heureux parce qu'il y a énormément d'événements d'éloquence. Mais énormément. Il suffit juste d'ouvrir Google, de taper éloquence, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, à La Rochelle, etc. Il y en a énormément. Et par rapport à ça, vu que toi, tu es une association d'éloquence déjà, tu penses que c'est en voie, c'est bon, c'est en voie d'être bon?
Les signaux sont extrêmement positifs.
Oui.
Positifs. Déjà, par rapport aux dernières réformes pour le bac, mm-hmm. on a remis l'oralité, grand oral.
Oui.
Moi, j'ai pas connu le grand oral, mm-hmm. pas d'oralité au moment où je passais. Mais ça, c'est juste génial, en fait, de reconsidérer l'importance que ça a.
Ça.
Mais même, après, tous les concours d'éloquence qui fleurissent, mm-hmm. que ce soit même déjà dès le collège, il y a des concours, des petits concours d'éloquence qui sont organisés au sein de, je sais pas, d'une classe, de l'échelle de l'établissement. Au lycée, on est sur un projet, nous, avec les débatteurs, qui s'appelle Expose, qui est un gros projet qui accompagne les lycées pro, les lycées agricoles et les MFR à écrire un discours par trois sur la thématique du développement durable. Donc, en plus de les rendre acteurs du monde de demain, ils développent leurs capacités, leurs compétences d'expression orale.
Totalement.
Et ça change des vies, en fait. Ouais. c'est pas pédant, en fait, de le dire. C'est parce que c'est factuel. On a des jeunes qui... on avait une jeune, par exemple, qui était atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette.
Okay.
C'était toute prise de parole était très compliquée parce que le syndrome de Gilles de la Tourette, pour ceux qui ne savent pas, ça déclenche des TOC qui sont impulsifs, donc qui sont très difficilement maîtrisables. Et bien en fait, au fur et à mesure des 12 heures, déjà, cette talk pendant les prestations était en diminution. Et en plus de ça, pendant qu'elle parlait, elle n'avait plus à toc.
Ah oui.
Elle était, enfin, c'est comme si en fait son énergie avait réussi à être canalisée. Mm-hmm. Et donc, elle avait plus, l'appréhension n'était plus la même.
C'est ça.
Quand au début, elle avait une appréhension de se dire, à tout moment, je vais faire un fuck pendant que je suis en train de parler. Donc du coup, ça va détériorer toute ma prise de parole.
Oui.
Mais en fait, là, j'ai plus cette peur-là parce que je me rends compte que quand je prends la parole, j'ai plus ces tocs-là. Mm-hmm. Donc c'est juste, mais incroyable le rapport positif qui s'établit à la prise de parole. Donc oui. C'est extrêmement positif tout ce qui émerge et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. De toute façon, on en a besoin. Donc, mm-hmm.
En plus, mais c'est bien, l'éloquence est un remède.
C'est
un remède, déjà un remède sociétal parce que l'éloquence nous permet de prendre à bras le corps certains enjeux sociétaux et de pouvoir défendre une cause, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui se voit. Et moi en fait, je suis même très heureux de le voir parce que là, je travaille dans un lycée en tant qu'assistant d'éducation et quand je leur ai dit que je donne des formations en oratoire, j'ai eu à accompagner une classe de lycéens pour la commémoration de Samuel Paty. Et voilà, il fallait qu'ils prennent la parole, ils devaient dicter un texte, exactement, ils devaient dicter un texte sur un texte qui commémorait Samuel Paty pour tout ce qui est honneur du professeur, etc. Et là, au début, c'était quelque chose qui leur était imposé parce que c'était le professeur qui avait dit on a quelqu'un qui fait des formations en oratoire, donc cette personne va vous accompagner. Donc au départ, ils étaient totalement, ils n'étaient pas du tout intéressés. Mais après, quand on a commencé, quand ils ont vu certaines personnes prendre la parole et quand ils ont vu ces personnes-là avoir une parole véritablement éloquente, avoir quelque chose qui captivait, avoir une articulation excellente, avoir une bonne diction, en gros, quelqu'un qui captivait, je parle d'eux, hein, je parle de certains élèves d'entre eux, les personnes qui au départ ne voulaient pas être concernées par la chose se sont dites, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon éloquence? Et aujourd'hui, pour le grand oral, chaque fois que je les vois, ils me disent il faut qu'on travaille pour le grand oral parce que on a envie de mieux parler, on a envie de pouvoir porter d'une certaine manière. Ils n'ont pas dit avec ces termes-là, mais ils me montrent qu'ils ont envie d'avoir une meilleure éloquence afin d'être optimal pour le grand oral.
Et donc, concrètement, toi, qu'est-ce que tu leur as donné comme conseil justement pour améliorer cette éloquence,
déjà,
notamment pour le discours de Samuel Paty?
Alors, c'était des exercices pratiques et c'était généralement le discours. Ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, quand on prend la parole, on la simplifie à outrance. Par exemple, pour eux, quand ils parlaient, ils devaient juste lire quelque chose, mais ils lisaient la chose comme si c'était de manière très simpliste, en vrai. Et j'ai eu à faire un exercice avec eux. Et moi, c'est un exercice que j'appelle la parole animée. Tu prends un livre, tu prends un texte et tu le lis, mais pas comme si tu le lisais à quelqu'un qui était à côté ou à ton ami, mais comme si tu étais devant 10 000 personnes qui t'écoutaient. Et c'est également la raison pour laquelle l'image est importante. Parce que lorsque tu lis comme si tu étais, par exemple, moi je prends un exemple très simple, lis-le comme si tu étais dans la peau de Luther King, par exemple. Quand tu le prends, tu vas pas lire en disant, je dis n'importe quoi, je dois lire un truc qui fait, je vais parler de la monnaie électronique qui est quelque chose d'important. Je vais pas le dire de cette manière. Mais si je vais le dire de manière animée, je vais dire, je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. Je vous parlerai principalement de la monnaie électronique, etc. Là, ce n'est qu'un exemple. Donc, en leur montrant la différence qu'il y a entre une lecture simple, qui est une lecture de commodité d'une certaine manière, et une lecture animée qui, elle, peut captiver, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire. Et bien évidemment, au départ, ils commencent, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, mais après, quand ils voient leur potentiel éloquent, ils tombent amoureux de leur potentiel éloquent, en fait. Et c'est ça le luxe de l'éloquence, c'est que dès lors qu'on goûte à l'éloquence, à un moment donné, on n'a même plus envie de s'arrêter parce qu'on se dit, je peux le faire. Je ne savais pas avant que je pouvais le faire, mais maintenant que je sais que je peux le faire, il faut impérativement que chacune de mes prises de parole en public soit une prise de parole optimale.
L'empouvoirment, comme nous disent les Canadiens.
Exactement, the empowerment.
L'encapacitement.
C'est
oui,
ça.
Mais c'est ça. L'éloquence, c'est la vertu de pouvoir donner du pouvoir, de se rendre beaucoup plus confiant, de se dire qu'on est capable d'avoir une expérience, un rapport positif du coup à la parole, ce qui va nous permettre ensuite d'assumer nos idées davantage, de défendre nos positions, mais aussi de les remettre en question, parce qu'en fait,
bien
en assumant nos idées, c'est aussi de les remettre en question. Et du coup, dans les conseils en fait préalables, c'est déjà, moi, une des choses capitales pour la parole, c'est l'écoute. L'écoute, elle est nécessaire, mais avant même de prendre la parole, parce que l'écoute, elle va vous permettre de comprendre réellement ce que dit la personne, de voir le message qui est transmis, et donc en fonction de pouvoir répondre, et ou de pouvoir peut-être re-questionner aussi la manière dont on voyait le monde. Et derrière, à travers cette écoute, c'est ce qui va améliorer l'échange, le débat, donc la qualité du débat, mais également aussi, je ne sais pas, vous êtes dans un entretien d'embauche.
Exact, mais on va même en parler, oui.
On va en parler, mais vous avez, en fait, avant toute chose, un des éléments, un des conseils le plus important, c'est justement d'écouter attentivement ce que la personne va te poser comme question, mais aussi va te raconter sur son entreprise, pour qu'ensuite tu sois en mesure de rebondir de manière juste et précise.
Totalement.
Et ensuite, pouvoir également poser des questions sur les choses, les manquements peut-être qu'il n'a pas dit, ou genre de choses.
C'est ça.
Et dans cette réponse, c'est là qu'interviendra, donc il y a l'écoute, et ensuite il y a le feedback.
C'est ça.
Et donc, là, cette réponse animée, tout en gardant, et moi c'est ça que je voudrais préciser, c'est que ce qui est intéressant dans l'exercice que tu disais sur la lecture animée, ou genre de choses, c'est qu'on va explorer, on va tâtonner sur notre potentiel éloquent que tu disais, ce pouvoir. Mais en même temps aussi, on va se trouver une forme de singularité dans cette manière de prise de parole.
La personnalité de l'orateur, de l'oratrice.
Essentiel.
Ouais.
La personnalité, puisque derrière, qu'est-ce qui fait qu'une prise de parole fonctionne ? C'est quand on arrive à être authentique, à être vrai. Et donc, on est vrai que quand on arrive à, quand on s'exprime, à coller à une forme de personnalité qui nous convient de mieux.
C'est ça.
Et pas à mimer.
Et pas uniquement à mimer. Et exactement.
Voilà.
Je pense que la copie, de toute façon, la copie, elle ne peut jamais être pérenne. On copie peut-être au départ, mais à un moment donné, on sait que ça ne nous convient pas du tout.
C'est ça. Mais si, ça peut être, comme tu dis, ça peut être un passage, préalable
pour totalement.
Pour comprendre
oui.
que ça ne nous convient pas et ensuite aller vers autre chose.
Ouais.
Mais ça peut pas être une fin.
C'est ça. Et je voulais même rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'écoute. L'écoute, le fait d'écouter, c'est vrai que l'art oratoire, on parle d'art oratoire, mais juste une prise de parole en elle-même, elle ne peut être faite sans une bonne écoute. Et même si on parle généralement d'écoute, en gros, du fait de voir, d'écouter ce que l'autre personne est en train de dire et après de rebondir, moi, je pense même que l'écoute, je pense même qu'elle est en amont. Je prends un exemple très simple que je donne généralement à mes étudiants. Lorsqu'on vient et qu'on doit faire un discours ou qu'on doit plaider une cause. Et quand on arrive dans une salle, les personnes qui sont dans la salle, on doit les écouter avant même que ces personnes ne parlent. Et ces personnes ne vont même jamais parler. Mais les écouter, ça signifie prendre en considération leurs particularités. Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce que ce sont des personnes qui aiment... Je dis un exemple. Si on doit, par exemple, être dans un registre assez humoristique, quel type de musique est-ce que ces personnes aiment ? Est-ce que ces personnes écoutent du Jul ? Auquel cas, peut-être, on va vanner un tout petit peu de Jul juste pour essayer de titiller un tout petit peu. Est-ce que ces personnes aiment... je dis n'importe quel type de film. Est-ce que ces personnes aiment, en gros, écouter l'auditoire, écouter la personne qu'on a en face, même lorsque cette personne n'a pas encore réussi à parler. Et c'est là aussi que ça montre que l'orateur n'est pas quelqu'un d'égoïste. L'orateur ou quelqu'un qui va avoir à prendre la parole n'est pas quelqu'un d'égoïste. Ça ne signifie pas juste venir parler en disant « voici comment je vois les choses, voici ce que je veux dire ». Parce qu'en le faisant,
il ne peut pas.
En le faisant, il sera inintéressant parce qu'il peut dire des choses extrêmement belles, des choses extrêmement cohérentes et pertinentes, mais il risque de ne pas du tout captiver. Et c'est ça. Donc l'orateur, c'est quelqu'un qui se renseigne, qui écoute l'autre personne avant même que l'autre personne parle et sur cette base-là, va leur proposer quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui va leur parler, mais tout en gardant et en ne tronquant pas sa singularité, son authenticité. Et là, j'aimerais qu'on a déjà commencé un tout petit peu, qu'on passe directement, parce que c'est aussi le but de CEO, c'est bien évidemment de voir tout l'envers du décor de certaines thématiques particulières, mais également de parler de conseils, de donner des conseils pratiques aux étudiants, pour que l'étudiant ou le jeune puisse savoir de A à Z comment essayer d'améliorer, ou comme les Anglais le disent, d'improve leur éloquence. Et déjà, sur les conseils, j'aimerais qu'on les sépare de manière déjà les conseils qui seront donc destinés aux étudiants dans un contexte étudiantin, et les conseils qui sont destinés également aux étudiants dans un contexte, aux jeunes, dans un contexte professionnel. Donc aujourd'hui, déjà, il y a une vague de candidatures, donc là, les étudiants, ils candidatent, ils vont bientôt passer des entretiens. Donc est-ce que tu aurais certains conseils à donner à un étudiant qui va se retrouver en entretien, qui a peut-être eu du mal, qui a peut-être actuellement du mal à prendre la parole, que ce soit en public ou que ce soit devant quelqu'un, devant un N+1. Donc, quel conseil que tu pourrais lui donner dans un entretien pour être éloquent, donc pour captiver, surtout pour que son image reste dans la tête de son interlocuteur?
Alors déjà, le préalable, c'est, comme tu l'as dit, c'est donc l'écoute, dans le sens, du coup, l'écoute, c'est de s'enseigner en fait sur la personne à qui on va s'adresser.
Okay.
Donc, par exemple, le master dans lequel on va postuler.
Totalement.
Connaître parfaitement vos sujets. Oui. Déjà, c'est une base, un préalable. Connaître donc les avantages et donc les avantages et inconvénients du master.
Mm-hmm.
Pourquoi vous souhaitez faire ce master ? Faut que vous prépariez en fait votre entretien à 200% avant pour que vous sachiez exactement, vous soyez en accord avec le fait de postuler à cet endroit-là. Pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce qui vous attire, quels sont vos projets de carrière. Bien sûr, dans ce registre-là aussi, qu'est-ce qui vous a amené dans votre cursus, dans votre vie personnelle, à vouloir aller vers cette, dans cette direction. Donc, derrière, il va falloir se présenter.
C'est bien sûr.
Donc, savoir se présenter. Donc, ça. Mais ça passe aussi déjà avant l'entretien. Mais comment est-ce qu'on se présente ? Est-ce qu'on va mettre en avant nos hobbies ? Peut-être est-ce qu'on va mettre en avant les derniers mois d'études, les expériences annexes qui peuvent paraître anodines, mais qui nous ont façonnés, qui nous ont permis de mûrir. Voilà, essayez de faire un peu cette analyse globale de notre vie pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre en avant qui correspond au master. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail de préalable, vient le moment de l'entretien, le jour J où vous rencontrez la personne. Déjà, les premières 20 secondes, elles sont essentielles. Donc, premières 20 secondes, c'est la manière dont vous allez dire bonjour, l'énergie que vous allez mettre dans la manière dont vous allez dire bonjour, la manière dont vous allez regarder la personne. Est-ce que vous avez un regard fuyant, Non. L'idée, c'est d'avoir un regard qui soit porté sur le regard de la personne à qui on s'adresse. Une posture digne, bien droit, bien droite. Donc, ça ne veut pas dire être coincé avec un balai dans les fesses, si je peux me permettre. Mais c'est être relâché, mais droit, digne, fier. Voilà, c'est pas forcément d'arrogance. C'est juste être OK avec soi-même. J'ai préparé ma chose, je sais pourquoi je postule, je connais ma valeur, et bien je viens l'exposer. Les premières 20 secondes, elles sont essentielles parce que c'est l'image que va conserver le recruteur, que ce soit un recruteur master ou quoi que ce soit, pendant tout le reste de l'entretien. Donc, une fois qu'on a fait ces 20 secondes, ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers. on réussit ces 20 secondes, c'est très chouette. Par contre, après, ça va être les 20 premiers mots. Et donc, les 20 premiers mots, comment est-ce que les premiers mots qu'on emploie sont des choses qui sont claires, limpides, essayer de ne pas trop bafouiller. Donc, quitte à prendre le temps, respirer, prenez le temps. Vous avez fait à un moment donné, en fait, l'entretien, même si c'est quelque chose que vous voulez à 200%, faut aussi se dire que c'est un entretien en fait, de recrutement. Donc, en gros, vous êtes également à se dire, peut-être que la personne qui va me parler, il faut qu'elle corresponde également à la vision que j'ai du master que je défends. Si je tombe sur quelqu'un qui est arrogant et méprisant, j'aurais beau vouloir ce master, c'est pas mon propre chef et c'est peut-être pas des valeurs que j'ai envie de défendre. C'est quelque chose qui peut vous faire questionner. Donc, dans tous les cas, prenez votre temps. Vous n'avez rien à perdre. Vous aussi, vous êtes dans la jauge. Vous étiez en train de savoir si vous voulez ou pas faire ce master. Donc, prenez votre temps, respirez. Et ces 20 premiers mots, ils sont capitaux. Donc, réussissez-les et ensuite, ça va découler tout seul. Et donc, derrière, c'est de l'écoute. Donc, l'écoute active, ça va être l'écoute en regardant la personne, en prenant des notes, ce genre de choses. Et quand vous réagissez, quand vous rebondissez, on parlait tout à l'heure d'authenticité, c'est ça, c'est juste, vous mettez de la forme. Parce que faut vous montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie. Donc voilà, il faut mettre de l'énergie, il faut savoir varier ses intonations, mettre des silences quand vous exprimez. Toujours mettre un peu de communication verbale et pas être recroquevillé. Donc ça va avec la posture digne, ça va avec comment est-ce qu'on habille notre manière de parler. Oui. Mais ne faites pas non plus l'italien pour faire l'italien, ça ne sert à rien. Vraiment, il faut que ça soit approprié, toujours. Et ensuite, c'est quand vous vous écoutez, c'est comment est-ce que vous posez les bonnes questions ? Comment est-ce que vous redonnez corps, vie à l'entretien qui est en train de se passer ? Et j'ai oublié un élément que je voulais dire. C'est dans cette manière dont vous affirmez les choses, c'est être aussi assuré dans ce que vous avancez. Que si, par exemple, vous parlez de votre expérience en tant que, vous avez vendu des journaux, vous avez donné des journaux sur la place de la Victoire. Il faut le dire avec fierté aussi, avec dignité. Mais qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Pourquoi vous l'avez fait ? Et pas en mode avec une petite honte de le dire. Non, dans tous les cas, l'éloquence, c'est d'assumer ce qu'on dit. Mais ça peut être assumer aussi ses erreurs. C'est pas le problème. Mais c'est d'assumer. Voilà. Toujours.
Ouais, totalement. Et je pense que tu as totalement raison. En plus, tu as relevé beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas. Tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, j'avais une chose, mais c'est parce que tout à l'heure, on parlait d'authenticité. C'est qu'au moment où on prend la parole, qu'on a écouté attentivement tout ce qui a été dit, surtout, ne vous coincez pas, ne vous bridez pas dans ce que vous dites. Bien sûr, vous ne sortez pas des absurdités ou des éléments vulgaires.
Oui.
Mais. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie, à un moment donné, si vous sentez qu'il y a une blague contextuelle qui peut se faire, ou un peu une mini-autodérision qui peut se faire, mais ne vous en privez pas. Alors, n'en faites pas à chaque fois, parce que là, pour le coup, ça veut dire que vous vous décrédibilisez.
Totalement.
Mais ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas non plus dans une logique totalement fermée en disant « Non, c'est un entretien, il faut que je sois méga formel. » Non, il y a quand même une certaine possibilité de jouer avec l'interlocuteur. Et c'est comme ça qu'il y a une complicité qui va se dégager. Et la complicité, et c'est ce que nous permet l'éloquence, c'est cette adaptation à notre interlocuteur, non pas par manipulation, c'est juste qu'en fait on crée un lien, on essaie de voir les points de jonction entre les deux personnes. C'est une force parce que bah, cette complicité, après, elle vous permet d'accéder à ce que vous souhaitez, ou du moins vous, comment dire, permet à votre interlocuteur d'avoir une image positive de vous.
C'est ça.
Et c'est, on n'est pas uniquement dans la séduction en fait en faisant ça, même si la parole c'est une séduction de manière générale, mais ce que je veux dire c'est qu'on est dans une logique de connecter avec l'autre et sans se trahir. Et ça, c'est pour moi la priorité, c'est chercher à connecter avec la personne qui s'adresse à vous.
Ouais. Et je pense que j'aimerais relever deux choses. Déjà, tu as parlé de la dignité, une sorte de fierté en fait, qu'il faut avoir. Et je pense que généralement, surtout quand on est dans la posture d'un étudiant qui veut avoir un master, le master nous tient à cœur, on veut l'avoir, généralement on oublie qu'on a une certaine valeur aussi. Et que si on intègre ce master, c'est aussi qu'on va apporter de l'énergie, apporter de la force de travail, apporter de l'intellect, donc apporter certains éléments dont auront besoin les responsables de ce master-là. Et c'est la raison pour laquelle ce que tu as dit, c'est très pertinent. Il faut savoir qu'on a de la valeur et on n'est pas en train d'essayer de... Il ne faut surtout pas la minimiser. Parce que l'orateur ou l'oratrice ou la personne qui prend la parole doit montrer que j'ai confiance, j'ai connaissance de mes valeurs, j'ai confiance en ces valeurs-là. Je vais tout faire pour essayer de les accroître encore, mais faites-moi confiance parce que je me fais confiance. Et quelqu'un qui ne se fait pas confiance dès le départ n'inspirera jamais confiance. C'est un peu comme par rapport à l'amour. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas forcément aimer, ne peut pas inspirer de l'amour. C'est tout à fait logique. Et ça, généralement, je pense qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Et c'est ce qui montre aussi que l'éloquence, au-delà même de la technicité, au-delà de tout ce qui est haranguer les foules par-ci, par-ça, c'est quand même d'abord aussi de la psychologie. Et donc, quand on va en entretien, par exemple, il faut avoir cette psychologie de « je vais pour défendre un projet, pour montrer ma personnalité estudiantine, mais pas que ma personnalité, qui est également de la valeur. » Comme tu l'as dit, en montrant ses erreurs, on en fait. Mais en montrant également les éléments qui font de moi quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui en vaut la peine parce que tout le monde, on est tous pertinents. Comme je dis généralement, on est tous pertinents. Et il ne faut pas avoir peur de le montrer. Un autre élément, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, avant que je le passe à un autre élément que tu as? Non, vas-y, ça marche. Un autre élément, le fait de bafouiller, par exemple, le fait de parfois on est stressé et ça arrive. Je me rappelle, je devais faire un entretien par rapport à être assistant d'éducation dans un lycée à côté. Et en plus sur mon CV, j'avais dit que je faisais des formations en art oratoire. Et donc en gros pour moi c'était un fort enjeu parce que je vendais à la fois mes prestations en art oratoire et également j'étais là pour être assistant d'éducation. Donc il fallait impérativement que j'aie ce boulot. C'était obligatoire pour moi de l'avoir. Et d'une certaine manière, je me suis mis un peu à stresser en amont. Mais je me suis dit, allez, sur le tas, ça va se faire, je vais parler, ça va bien se passer. Donc j'arrive, j'entre dans les locaux. Au départ, je vois les responsables. Et après, ils me font entrer dans une salle et ils ferment la porte. Et à partir de ce moment-là, mais je t'assure, Alexis, le stress qui est monté en moi, je me suis dit, mais j'ai quand même réussi à parler devant 4000 personnes. J'ai quand même réussi à parler devant 6. Pourquoi est-ce que je stresse? Et sur le coup, je ne me suis même pas posé la question. J'ai juste subi ce stress. Et quand on a commencé par parler, en toute franchise, je me suis senti comme la personne la moins éloquente au monde. Parce que j'ai commencé par parler rapidement. Je disais, alors je fais ci. J'ai voulu tellement envoyer du positif que je parlais. Et c'est là que la personne à côté m'a dit, mais que parlez lentement parce qu'on ne vous comprend pas. Et il m'a dit quelque chose, mais qui a touché mon ego. Il m'a dit, mais en plus sur votre CV, vous mentionnez que vous êtes formateur en art oratoire, mais il faudrait quand même qu'on puisse vous comprendre. Non, mais je te dis, en fait, il avait raison, tu vois. Mais à partir de là, je me suis dit, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais là, tu vois, et en gros, juste pour dire que le stress arrive même au meilleur. Alors, je dis pas que je suis forcément le meilleur, c'est pas le propos, mais le stress, ça peut arriver. Et ce que j'ai retenu de là, quand il me l'a dit, je me suis dit, ok. J'ai dit, ah désolé, c'est tout simplement parce que cet entretien est assez important pour moi. Je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles c'est important pour moi. Et à partir de là, on est parti, mais sur un échange mais extrêmement fluide, où je n'avais même plus ce n'était même plus mécanique, je n'essayais même pas de me dire que je suis orateur, sinon, je parlais tout simplement en montrant ce que je vaux, ce que je peux apporter, etc. Et moi, le conseil que j'aimerais donner aux étudiants ou aux personnes qui nous écoutent dans un entretien, c'est que bafouiller ou stresser, c'est pas grave. C'est pas rédhibitoire, sauf qu'il faut le conscientiser. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est avoir conscience de sa personnalité, savoir qu'on peut commettre des erreurs. Et si vous stressez, si vous bafouillez, si vous allez trop vite, etc., dites-vous ou arrêtez, dites « excusez-moi ». montrez que vous êtes conscient de cela, mais que cela ne reflète pas l'entièreté de votre personnalité. Et dites que c'est vrai que je suis assez stressé aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce que cet entretien est extrêmement important pour moi. Mais je reprendrai mes esprits. Et si même vous avez, parce qu'il peut y avoir des cas extrêmes, si même vous avez besoin de quelques secondes juste pour reprendre vos esprits, n'hésitez pas. On est d'abord dans un échange humain. N'hésitez pas à le dire. Mais généralement, quand on essaie de tronquer sa personnalité ou de nier certains éléments, c'est là où c'est mort. C'est là que c'est mort. Et voilà, je le dis aussi par rapport à une étudiante que j'avais pris en... c'était un examen oral. Et par rapport à ça, les étudiants, ils n'avaient pas de minute de préparation. Donc, pendant qu'elle était devant moi, elle parlait, elle se présentait. Et à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Et ça peut arriver qu'on ait un stress qui est énorme parce que c'est un examen, surtout qu'aujourd'hui, que ce soit l'entretien, que ce soit l'examen, tout dépend de l'enjeu de la chose pour toute personne. Et il ne faut pas nier cet enjeu-là. Et quand vous voyez que vous êtes en difficulté, que vous n'êtes peut-être pas au top de votre forme là, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas compétent. Ça signifie juste que vous êtes sous pression. Et il faut le dire. Et donc, le conseil aussi que j'aimerais rajouter sur tous les éléments pertinents que tu as eu à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire que voici, je suis stressé parce que. Et à partir de là, en tout cas, vous verrez que vous allez pouvoir dérouler tout ce que vous voulez dire parce que tout ce que vous voulez dire, si vous l'avez bien préparé en amont, c'est pour ça que la préparation est cruciale. Si vous l'avez bien préparé en amont, vous pourrez le dérouler de manière totalement honnête et de manière totalement pertinente.
Et d'où l'intérêt dont on parlait tout à l'heure de l'authenticité. C'est ça en fait. C'est à un moment donné reconnaître qu'on a des vulnérabilités, on a des failles, on les exprime. Et en fait, à partir du moment qu'on les exprime, ça peut rouler. Déjà, ça nous décharge aussi une pression.
Exactement.
C'est comme quand, je sais pas, vous êtes stressé ou quand vous avez de la colère ou quand vous êtes anxieux ou ce genre de choses. Même à titre personnel, quand vous verbalisez le fait « Ah ben tiens, je suis anxieux, ah tiens, je suis stressé », mais d'un coup, en fait, la chose, elle s'atténue parce qu'on l'observe, on n'est plus dans la lutte, on est dans l'acceptation.
C'est
et derrière, en fait, dans un entretien, c'est exactement pareil. Il faut être dans l'acceptation des choses. Bah oui, effectivement, je suis stressé,
ouais.
C'est ok.
Mais c'est ok, oui.
Et je vais prendre un exemple très rapide dans ma manière de m'exprimer.
Oui. Bah,
effectivement, il y a un moment donné où j'avais un peu de... Comment dire ça mettait une petite pression de dire que j'étais formateur en prise de parole en public parce que justement les gens s'attendent à ce que tu t'exprimes bien, que tu fasses plus aucune faute de français ou genre de choses. Et en même temps, après, et depuis, j'ai beaucoup déconstruit ça et je me suis dit, je vais venir avec mes techniques, mes capacités, mes compétences où je vais pouvoir analyser les choses quand les gens vont s'exprimer, donc en tant que coach. Mm-hmm. Par contre, après, en tant qu'orateur, ça peut évidemment m'arriver parce que c'est ce que je dis aux personnes coachées. D'avoir des trous, d'avoir des bafouements, d'avoir des hésitations. Et en fait, moi, dans mon quotidien, quand je m'exprime, mais je pense que si on s'arrête vraiment sur la manière dont je m'exprime, je fais plein de fautes, j'ai plein d'hésitations, ou plein de petits mots qui sont répétés, ou genre de choses. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que l'intention, elle est tellement différente par rapport à l'énergie que je mets, à l'enthousiasme que je mets dans la prise de parole, et surtout du fait que je sois totalement présent et en connexion avec l'autre, qu'en fait on oublie totalement ça. Et c'est valable partout. À partir du moment qu'on est entier, qu'on se donne à corps et âme, c'est oublié.
C'est ça. Et c'est très important, en tout cas, que les personnes qui nous écoutent, particulièrement les étudiants, sachent qu'il faut y aller, il faut préparer le fond. Mais une fois qu'on y est, c'est d'abord un échange entre humains. C'est donc un échange humain et on a de la valeur. On a de la valeur, c'est un échange entre humains. Donnez le maximum, mais ne surtout pas brider sa personnalité. Et aussi un autre conseil qu'on aimerait donner aux étudiants, peut-être qui n'ont pas forcément à passer un entretien, parce que l'éloquence, c'est quelque chose, il faut savoir que c'est quelque chose de sérieux, mais c'est un jeu sérieux, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est un jeu sérieux, il faut se former à ce jeu-là. C'est pour ça que moi, personnellement, j'exhorte toutes les personnes qui sont dans un cursus dans lequel l'oralité est importante, toutes ces personnes-là se dire, il faut que j'améliore mon art oratoire, que j'améliore mon éloquence. Même si vous êtes au top, c'est pas grave, parce que lorsque l'éloquence ne se travaille pas, elle ne stagne pas, elle recule, comme tout type de compétence. Raison pour laquelle, moi personnellement, le conseil que j'aimerais donner, c'est essayer de vous renseigner directement, dès maintenant, quelles sont les associations d'éloquence si vous en avez à côté de vous, ou comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir l'habitude de parler. Parce que l'éloquence se découvre par la parole, par l'exercice pratique, chaque fois que vous en aurez l'occasion. Donc n'hésitez pas, passez par tous les moyens pour pouvoir prendre la parole. Je donne un exemple très simple. Moi, je sais que j'ai été mis un peu dans cet environnement-là parce que moi, je suis catholique et à l'église, je lis. Quand je vais à l'église, je demande toujours à l'association, du moins au groupe de jeunes qui s'occupe de l'organisation de la lecture, des lectures prières universelles, etc., première lecture, deuxième lecture, et je lis. Et juste ça, si vous êtes catholique, par exemple, je prends ce cas particulier, juste ça, c'est une occasion de prendre la parole en public. Vous lisez, c'est vrai, mais il y a quand même ce rapport-là, parce qu'il faut avoir une diction, il faut réussir à captiver de telle sorte que les personnes qui sont en face puissent se dire « Ah, je comprends ce que cette personne est en train de vous dire et sa forme. » Donc, c'est un conseil que je donne. Il faut, dès maintenant, il ne faut pas être passif et attendre de subir l'éloquence, parce que l'éloquence, elle n'est jamais belle quand elle se subit. Donc, il faut dès maintenant être actif et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre éloquence, comment est-ce qu'on peut, chaque semaine, s'il le faut, prendre la parole. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ce...
C'est ça, c'est comment, voilà, quels sont les ateliers qu'il y a autour, mais ateliers ou tout type de prise de parole.
Tout type, exactement. Oui.
Et du coup, derrière, quand pour ceux qui veulent, qui sont dans le milieu professionnel et qui ne savent pas comment s'améliorer, mais déjà, allez chercher, si vous pouvez, des formations qui sont autour de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui travaillent auprès des entreprises, qui proposent des cours de développement personnel, enfin de prise de parole, ce genre de choses, c'est ce qui est souvent dit. Mais surtout, après, n'attendez pas forcément uniquement la formation ou l'atelier. L'éloquence, ça ne s'arrête pas à ce moment-là. Ouais. C'est, imaginez, posez-vous les questions de comment, dans votre quotidien, vous pouvez d'ores et déjà améliorer votre prise de parole ou vous sensibiliser à tout ça. Ou faire en sorte que la zone d'inconfort elle soit de plus en plus réduite. Mm-hmm. Donc, ça peut passer par plein de choses. C'est peut-être demain, vous allez voir un ciné-débat, posez une question. Au début, ça va être tétanisant, mais peut-être que la troisième fois que vous allez le faire, bon, en fait, ça sera agréable. Vous êtes à une réunion, mais d'abord, posez une question ou intervenez ou rebondissez sur quelque chose. Puis après, la prochaine réunion, dites-vous que c'est peut-être vous qui allez présenter carrément un projet. Ou peut-être même que la prochaine encore réunion, c'est vous qui allez organiser la réunion et l'animer. Mm-hmm. Et en fait, progressivement, allez-y pas à pas, mais prenez le réflexe de, quand vous pouvez, discuter. Vous allez prendre du pain, discutez avec la boulangère ou le boulanger. Prenez le temps de discuter, de questionner. Vous êtes dans un café, dites-vous, tiens, aujourd'hui, mon challenge, c'est de parler avec un inconnu. Mm-hmm. Mais ça peut paraître un peu, fable, enfin quelque chose qui ressemble à la fable, mais c'est le cas, en fait. C'est plus on s'entraîne, plus le regard de l'autre, il devient quelque chose de naturel, plus on sera à l'aise, et plus on aura aussi envie d'explorer des potentiels, comme tu parlais tout à l'heure, du potentiel d'éloquent.
Et je pense que tu as totalement raison, parce que même moi, je pense que parfois, je fais cette erreur de penser que l'éloquence, elle est uniquement dans des groupes particuliers, il faut forcément suivre une formation, etc. Alors que même dans la dernière fois, je donnais une formation à des professeurs dans tout ce qui est prise de parole, une formation d'oratoire, de prise de parole en public. Et ce que j'avais fait, je sais pas, j'ai eu l'idée juste comme ça, parce que moi, je sais que parfois, je peux avoir du mal à aborder les gens en public. Donc maintenant, je le fais chaque fois que j'en ai l'occasion. Si par exemple, le tram est en retard, quelqu'un à côté, je pose toujours la question ou au moins j'entame une certaine discussion. Et la dernière fois, par rapport à ces professeurs-là, je les ai fait, on est allé à la Victoire et je leur ai dit, c'était très simple, il fallait qu'ils aillent parler à des personnes juste là, qu'ils essaient de leur vendre, de leur proposer, de leur parler de leur formation, ou etc. Et au départ, ils étaient tétanisés. En vrai, je ne pouvais pas leur dire que moi-même, je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc, parce que je me suis dit, allez, je suis dans la posture du professeur et tout, donc on va y aller. Donc, j'essaie de les mettre en confiance. On y est allé et on a tous commencé. On s'est tous prêtés au jeu. Et franchement, les retours que j'ai eus après, c'était « Ah, j'ai beaucoup aimé, ça m'a montré que je peux vendre mon projet de cette manière. J'ai même eu des conseils, etc. » Et c'est vrai que l'éloquence, elle est quotidienne, si on veut. Et c'est à nous de prendre les devants et de se dire que je peux le faire, il faut que je le fasse. Parce que dès lors qu'on se dit qu'il faut que je le fasse, notre cerveau automatiquement va nous donner des pistes de réflexion, va être focus pour qu'on puisse développer ce tard-là que l'on veut, que l'on veut développer.
Carrément. Ouais. Et du coup, derrière, quand vous allez prendre la parole avec vos managers ou genre chose, vous serez peut-être plus enclin à dire des choses, à les assumer, à les défendre, peut-être à les questionner, et peut-être que vous ne considérez plus votre manager comme un ennemi, comme un adversaire, mais peut-être comme quelqu'un de la même équipe avec lequel il faut composer, et peut-être que vous aurez moins de peur à demander justement une augmentation salariale, que vous aurez aussi plus d'outils pour demander cette augmentation salariale et de l'avancer de manière un peu plus rationnelle et pas émotionnelle, chose qui peut vous porter préjudice. Mm-hmm. Bref, c'est toutes ces choses-là qui vont vous servir professionnellement et dans la vie de tous les jours. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, alors c'est une conviction très, très personnelle que je défends, mais c'est que quand je fais ce genre d'exercice, parler des inconnus, ça me redonne foi de énorme en l'humanité, mais vraiment ça me donne foi énorme en l'humanité et en l'autre, et oui. Donc en gros ben, l'autre n'est plus un inconnu, l'autre n'est plus une menace, non, en fait avec l'autre on peut construire des choses, ça ouvre plein de portes. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées justement en discutant autour d'un café, oui. Mais c'est juste incroyable quoi, genre des personnes avec qui on a monté des projets, on a monté des événements ensemble,
c'est
juste dingue quoi, et voilà, et la meilleure formation que j'ai eue à ce moment, enfin pour ça, c'était, j'ai été recruteur de donateurs, vous savez, là, ceux qui vous harcèlent dans la rue. Là. Et mais sans que ça paraisse, c'est quelque chose qui vous forme énormément et qui vous apprend à prendre des râteaux, en fait.
C'est ça, l'humilité, mais elle est au max.
Ah, l'humilité, mais là, tu t'en prends un coup, comme tu dis. Donc oui, bah, là, tu seras OK pour discuter avec tout le monde. Et que tu prends un râteau, bah, c'est OK. Voilà, tu prends,
ouais, la vie
et
continue.
La personne ne t'écoute pas, bah, c'est OK. Ou sinon, je vois comment est-ce que la personne peut m'écouter la prochaine fois.
C'est ça.
Mais, la vie continue, comme
ouais.
tu dis.
Ouais, c'est très bien. Franchement, on pourrait continuer cette interview pendant des jours, même des semaines. Mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Mais en tout cas, franchement, je m'en suis très heureux d'avoir pu mener cette interview, d'avoir parlé d'éloquence, d'art oratoire. Je pense qu'en très, même pas en résumé, mais juste s'il y a un ou deux éléments essentiels à retenir, c'est d'abord et avant tout, il faut travailler le fond. Il faut travailler le fond.
Essentiel.
Et pour toute personne qui voudra apprendre la parole, il faut travailler. Parce que l'oratoire, c'est pas que la forme, non. C'est le fond qui est mis sous une forme particulière. Il faut travailler le fond. Mais il faut surtout savoir qu'on a de la valeur et qu'on est tous pertinents, autant que nous sommes. On est tous pertinents, on a quelque chose à dire, on est tous pertinents. Et la prise de parole, elle est déjà un risque. On va déjà devant des personnes qui ne nous connaissent pas, qui, rien que par leur regard, peuvent annihiler tous nos espoirs. Donc, c'est déjà un risque. C'est déjà quelque chose de risqué, quelque chose de dangereux aussi, mais aussi quelque chose de très amusant, mais quelque chose qui peut véritablement avoir de l'impact sur d'autres personnes. Donc, quitte à prendre la parole, quitte à être dans un environnement dans lequel on aura à parler, il faut dès maintenant essayer d'aller vers les codes qui nous permettront d'avoir les outils pour prendre cette parole-là de manière optimale. En tout cas, merci beaucoup Alexis, merci à toi
d'avoir répondu. Merci à toi pour ce moment, c'était très agréable.
C'est très agréable, franchement, j'ai appris beaucoup et j'espère qu'avec cette collaboration qu'on a et qu'on aura, qu'on perpétuera encore, j'espère qu'on pourra apporter le maximum de codes et d'outils à toutes les personnes qui veulent être encore plus éloquentes et avoir de l'impact.
Avec grand, grand plaisir.
Alors, c'était CO Podcast. Nous remercions la Radio Campus de nous accueillir tous les mercredis à midi. Merci Alexis d'être venu. On dit coucou à Tom Brel qui est en Côte d'Ivoire actuellement.
Et coucou Tom.
Coucou Tom. Et je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, l'oratoire, ça se travaille. Mais vous aurez toujours des personnes à côté qui vous aideront à travailler cet oratoire. Merci et très bonne journée.
Campus Bordeaux 88.1.
Radyosunda 88.1'desiniz. Sen.